I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On est avec Alban. Salut Alban.
Bonjour.
Comment ça va?
Bah ça va très bien.
Merci.
Très bien.
Merci Alban de me recevoir.
Bah c'est un plaisir. Plaisir partagé. Tu sais, c'est Kant qui disait, pour se découvrir soi-même, il faut découvrir les autres. Donc une découverte de plus.
Putain, on commence à citer du Kant. Ça va pas rigoler.
T'inquiète pas, quand on commence si haut, c'est qu'à la fin, on va citer d'autres personnes, Pierre Perret ou je ne sais pas quoi, tu verras.
Pierre Perret, bah, très bien. On va un peu parler de masculinité avec toi, et notamment de ta greffe de cheveux que dont t'as parlé sur tes réseaux sociaux de façon très publique et que t'avais aucun problème avec ça.
Oui.
Je trouve que c'est un vrai sujet dont il faut qu'on cause ensemble. J'aimerais bien savoir parce que pour moi l'un des trucs c'est que la calvitie chez les mecs a toujours été un truc qu'il fallait cacher.
Un vrai complexe.
Et j'aimerais bien voir un petit peu quel a été ton chemin à toi par rapport à ça. Qui t'a amené aujourd'hui. Mais t'es aussi et surtout connu parce que t'as fait Koh-Lanta et que t'as fait même deux fois.
Deux fois, oui. Mais pas gagné une seule fois, par contre.
C'est pas, les places sont chères. Hein.
Les places sont chères, exactement. Exactement.
Et en fait, moi, je t'ai redécouvert aussi dans cette fameuse vidéo, enfin, cette série de vidéos chez GQ.
C'est ça.
Tu pars en Thaïlande afin de faire un combat de boxe thaï en une semaine.
C'est ça. On essaie de faire découvrir une culture à travers son sport national. Donc c'est un sport, un pays, une culture. Et en Thaïlande, c'est la boxe thaï. Et ça s'appelle amateur. Pourquoi ? Parce que justement, je suis un passionné de tous ces professionnels. J'admire énormément les professionnels de tout sport. Et on voulait se mettre en immersion et voir ce qu'un sportif du dimanche comme moi pouvait donner, et il n'y a rien de plus beau que le dépassement de soi, et surtout dans la rencontre des coachs. Enfin, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir cette belle série.
Alors, on peut dire que tu t'es dépassé.
Oui, mais de toute façon, et c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'au final, de toute façon, tous ceux qui vont courir ou qui font un peu de sport sont dans le dépassement. Parce que, évidemment, qu'on préférait tous rester chez nous à manger des plats de pâtes et à se caler devant la télé. Mais non, dans tous les cas, toutes les personnes qui se bougent un petit peu sont dans le dépassement. Ensuite, il y a des dépassements un peu plus extrêmes que d'autres.
Voilà, je veux dire, t'aurais pu aller en Angleterre et faire du cricket.
Oui.
Ça aurait été peut-être moins violent pour toi.
Mais c'est une autre possibilité aussi, et c'est le principe, c'est que, bon là c'est vrai que c'était un sport assez violent, mais c'est aussi un art, ça reste un art martial, et c'est ça aussi qu'on voulait mettre en avant, c'est que souvent la Thaïlande et notamment la boxe thaï a une image un petit peu biaisée, notamment à cause des enfants qui sont souvent dès le plus jeune âge mis là-dedans, mais c'est aussi pour eux une sorte d'évolution sociale, et c'était pour ça que les vrais héros de ce documentaire, ce sont les coachs, ce sont ceux qui nous accompagnent, et un petit peu comme tous les vrais héros du quotidien sont tous les ce qu'on appelle les amateurs, parce qu'un amateur en France, le football amateur, le rugby amateur, c'est grâce à ces gens-là que se créent des professionnels, et c'est ce qu'on voulait mettre en avant.
On va reparler de tout ça, mais avant tout, la question que je pose à tous mes invités, c'est quoi pour toi être un mec ?
Je me suis jamais posé la question.
Comme plein de...
C'est vrai, je me suis jamais posé la question, et aujourd'hui, encore plus au XXIe siècle, c'est très difficile de se définir, parce que on va dire que physiquement, c'est parce qu'on est un chromosome différent du chromosome féminin, Il y a au 19e, 20e, on aurait pu parler de virilité, mais c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, un homme, c'est quelqu'un qui s'assume. Mais je veux dire, voilà. Mais homme, femme confondu, c'est quelqu'un qui essaye déjà d'être, on va dire, bien dans sa peau. Et c'est ce qui va nous faire rebondir derrière, parce qu'on est rarement bien dans notre peau, on est toujours à la quête de quelque chose de différent. Donc, je n'ai aucune vraie réponse à cette question, et je pense je n'en aurai jamais, notamment parce qu'aujourd'hui, un homme, c'est une multitude de choses. Ça peut être justement aussi bien une partie féminine, une partie masculine. Ça peut être justement un combattant, comme ça peut être aussi quelqu'un qui accompagne, qui aide. Donc voilà, je pense que c'est là un petit peu comme ce que j'ai bien aimé le dernier Pixar dans Soul, qui met justement en avant un homme et une femme. Aujourd'hui, c'est plus une âme qui va évoluer en fonction de ses rencontres et de ses partages et de ce qu'il va faire dans sa vie. Mais aujourd'hui, je pense que un homme avec un grand H, c'est ça qui nous fait. Voilà.
Ok. Dans quel genre d'éducation t'as été élevé en tant que petit mec quand t'étais plus jeune?
Moi, j'ai un grand frère, donc moi, on est juste deux, et c'est ce que je dis toujours. Je dis moi, mon grand frère était le premier, il a été éduqué pour être premier de classe, et moi, j'ai été éduqué pour avoir la moyenne. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance des parents qui m'ont toujours poussé à beaucoup faire du sport, dans le sens où la découverte des autres, c'est la découverte à travers le sport, le dépassement de soi. D'ailleurs, je me suis toujours plus révélé dans des sports co, parce que je trouve que c'est là où je partage le plus d'émotions. J'admire beaucoup les tennisman, mais c'est vrai qu'au tennis, j'en ai fait, on a moins d'émotions qu'au foot. On a moins d'émotions quand dans une partie où on est plusieurs. Donc, je dirais que j'ai eu une éducation avec des parents qui ont prenaient beaucoup de valeurs. Ils étaient commerçants. Ils se sont toujours battus pour qu'on ait la meilleure éducation possible et tout ce qu'on devait gagner, voilà, on devait gagner par nous-mêmes. Donc voilà, moi je suis très reconnaissant. Enfin, notre éducation, c'est surtout grâce à nos parents. Et aujourd'hui, ben si j'en ai une belle, alors attention, je suis parfaitement imparfait, hein, mais je veux dire, mes valeurs, si j'en ai, ce sont grâce à eux en tout cas.
Ok. T'as fait quoi comme sport co?
Oh bah beaucoup de foot. Moi, je suis un passionné de foot. Je suis lyonnais. J'ai eu la chance en plus de grandir dans une ville qui a été 7 fois championne de France. Moi, je suis né avec un ballon doré dans la bouche, passionné de ma ville et de mon club de foot. Et donc voilà. Donc c'est vrai que ça pousse forcément à vouloir faire ce genre de sport. Voilà.
Il y a un côté, justement, pour revenir au sujet, il y a un côté très masculin et très viril dans les vestiaires, tu vois, entre potes, entre mecs. Comment t'as évolué, toi, là-dedans?
Oui, enfin, je veux dire, aujourd'hui, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que le foot, et notamment à Lyon, le foot féminin, démontre aussi toute l'étendue de son talent. Donc, moi, je suis ni dans le complexe d'infériorité ou de supériorité. Je suis contre aussi le principe d'égalité. Parce que je pense pas que les gens nous soient égaux, parce qu'ils nous sont 1000 fois supérieurs sur plein de domaines. Donc on se bat pas pour être l'égal de quelqu'un, on se bat pour être différent. Et c'est la force des hommes et des femmes. Donc moi, ce que je jamais ressenti une virilité particulière, excepté effectivement que je suis quelqu'un de très poilu. Donc si j'étais né au Moyen-Âge, ça aurait été une force, parce que en fonction aussi des âges, hein, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant.
Bien sûr. Ouais.
Aujourd'hui, on est dans une société où c'est le côté imberbe qui prime. Où voilà, on voit très très peu d'hommes poilus. Entre guillemets, ce qui était d'ailleurs intéressant lors de mon premier Koh-Lanta. Moi, je suis quelqu'un de poilu du torse, et c'est vrai que ça suscite souvent des débats, des interrogations, parce qu'on voit de moins en moins. À l'époque, James Bond, Sean Connery,
était poilu de ouf.
Mais était poilu quand il sort de l'eau. La virilité, avec des grands guillemets, quand on parle de ça, elle évolue en fait. Elle évolue en fonction, je sais pas d'ailleurs en fonction de quoi. Je pense des modes, des tendances ou de ce que les gens imposent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que la virilité veut plus dire grand chose, parce qu'on est plus dans une approche globale. Voilà.
Ça t'a complexé un petit peu, le fait d'avoir autant de poils quand t'étais plus jeune vis-à-vis des filles?
Pas du tout. Ouais. Enfin, je pense qu'il faut. Alors, c'est paradoxal ce que je veux dire. Il faut un peu s'assumer. Mais si je m'assumais vraiment, je me serais jamais fait une grève de cheveux.
Mais
ce que je veux dire, c'est que forcément, on est un peu dicté par une société, par des codes. Donc oui, on essaye tous un petit peu de rentrer dans le moule ou justement de se distinguer et de s'assumer un petit peu comme on est. Mais qu'est-ce que c'est difficile aujourd'hui, parce que il y a rien de pire que le regard de l'autre. Et ça, que ça soit de l'enfance à aujourd'hui, et notamment avec la médiatisation et toutes ces choses-là, c'est dur. Donc il faut savoir faire avec, même si c'est pas toujours facile. Donc je dis juste que moi, j'ai des poils, donc je ne me rase pas, mais c'est vrai que j'essaie quand même pas qu'il y en ait énormément. Enfin, j'essaie de m'adapter, on va dire, un peu à la société, quoi. Voilà.
Ok, donc tu fais comment?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que je les rase pas, mais je veux dire, j'ai pas une pilosité. Enfin, je fais un peu attention. Je les rase avec une tondeuse,
okay.
Mais pas. Enfin, je suis pas jamais à blanc. Voilà, je fais un petit peu. Je fais un petit peu attention. J'essaye de. Non, je prends soin de moi, on va dire. Voilà, ouais. Je prends soin de moi, comme je prends soin de ma barbe, comme voilà. Je trouve qu'aujourd'hui, les hommes prennent aussi soin d'eux, donc c'est voilà, quand on voit les barbershops, quand on voit aujourd'hui toutes ces crèmes masculines, quand on voit voilà l'homme est devenu très coquet et c'est tant mieux.
Et c'est un truc que t'as toujours fait, toi, ou c'est un truc vers lequel t'es venu un peu en vieillissant
C'est en vieillissant, on a envie de prendre soin de nous. Hein, ça, c'est un petit peu comme une gueule de bois. Quand on a 20 ans, on peut sortir tous les soirs de la semaine, on sent rien. Et aujourd'hui, à 34 ans, quand on sort, on sent notre âge. Donc, on a envie de s'entretenir, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'on a envie de le plaisir de plaire aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a, on a tous la prétention de dire non, mais je fais ça surtout pour moi. C'est pas vrai. On essaye de faire un petit peu pour plaire à notre entourage et essayer d'être présentable. Voilà.
Ok. Je veux dire, est-ce qu'il y a un moment, t'as eu un déclic toi pour t'amener vers le fait de te raser un petit peu les poils?
Non, pas de déclic. Non. C'est vraiment en fonction de mes envies et aussi de comment j'ai envie d'évoluer. C'est un petit peu comme une tenue. Comment est-ce qu'on choisit une tenue le matin? Comment est-ce qu'on évolue? On a tous des styles vestimentaires. Enfin, quand on regarde des photos de nous quand on avait 10, 15, 20 ou 30 ans, on a évolué. Et je pense que pour notre corps aussi, on essaie d'évoluer un petit peu. Donc, elles sont passionnantes tes questions parce qu'en fait, j'ai pas forcément des réponses très précises à t'apporter. Parce que c'est vrai que c'est, y a pas un jour où on se réveille en disant je vais faire ça ou je vais faire ci. Je pense que c'est vraiment en fonction de ce qu'on vit au quotidien. Et au bout d'un moment, on évolue sans s'en rendre compte. Parce que tu vois là, c'est en répondant à ta question que je m'aperçois qu'effectivement, j'ai commencé entre guillemets à prendre soin de moi, mais pas du jour au lendemain, mais petit à petit en fait, voilà.
Mais il y a des mecs, tu sais, qui ont vraiment vécu des trucs, genre une fille qui ferait une remarque un peu trop dure, tu vois, et qui donc ça créerait des déclics, quoi, tu vois.
Mais oui, c'est pas... mais ça voudrait dire qu'on est complexé. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je fais partie de ces personnes qui essayent de s'assumer au mieux. Je dis bien essaye, hein, parce que on s'assume jamais à 100%, mais qui essaie de s'assumer au mieux avec ma taille, avec mon poids, avec mon âge, avec mes défauts, et ensuite effectivement on évolue en fonction de nos rencontres, mais je peux pas te citer un déclic qui fait que tiens telle personne m'a dit ça un jour, okay. Donc voilà, ça c'est plus pour ma calvitie peut-être. Plus ouais. une multitude de peut-être dans le regard des autres qui a fait qu'un jour je me suis dit mais quand on fait ça on le fait surtout pour soi donc voilà,
on va en reparler un peu
bien sûr.
Mais avant ça je voudrais parler un peu de ton aventure Koh-Lanta. Comment tu t'es décidé toi à te lancer dans Koh-Lanta? C'était ton premier
c'est ma première oui c'est
première participation au casting.
Exactement, ouais j'ai eu je fais partie de ces gens qui ont eu la chance de première candidature d'avoir été pris tout de suite, hein. C'est des castings qui englobent énormément des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'être pris tout de suite et en fait on est justement aujourd'hui dans une société avec les réseaux sociaux ou autres où on est toujours à la quête d'aventures et de découvrir des choses, mais malheureusement c'est vrai que malheureusement et heureusement, la découverte est très accessible. Je veux dire, moi qui suis un passionné de littérature, je à l'époque, quand il partait découvrir, c'était vraiment une quête vers de l'inconnu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous pousse à être dans le dépassement de soi? C'est des aventures comme ça. Parce que souvent, on me dit, mais tu peux très bien prendre un sac à dos et partir sur une île déserte. Koh-Lanta, c'est pas ça. Koh-Lanta, c'est une aventure parce que c'est surtout un jeu. C'est un jeu auquel on se prend, mais ce n'est pas qu'un jeu. C'est plus qu'un jeu parce que ça vous prend aux tripes. Là-bas, une journée, c'est comme une vie de chat. Vous le multipliez par 7. Tout ce qui se passe là-bas, vos émotions, vos ressentis, votre vécu est démultiplié. C'est ce qui rend la chose incroyable. C'est que vos amitiés comme vos inimitiés sont incroyablement plus fortes. Et là-bas, on se sent vraiment vivant.
C'est dû à quoi, tu penses, le fait que justement tout soit décuplé comme ça? C'est les conditions de vie?
C'est les conditions de vie. Aujourd'hui, on est dans une forme de confort de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et heureusement, hein, on est dans un pays comme la France où on a la chance d'avoir accès aux soins. On a quand même la possibilité, effectivement, quand on travaille, de pouvoir se loger, se nourrir. Donc, quand on est mis à mal, quand déjà le manque de nourriture fait révéler beaucoup de personnalités. Et c'est ce qui fait que on est ben déjà assujetti à ressortir un peu plus notre vraie personnalité. C'est-à-dire que là où un café et un croissant peuvent nous faire contenir un peu nos émotions, si on est disputé avec notre collègue et on va se contenir, ben le manque de nourriture et la faim là-bas fait que on ne se contiendra pas. Et donc on sera beaucoup moins hypocrite, paradoxalement beaucoup plus critiqué, mais beaucoup moins hypocrite. Voilà. Donc c'est au contraire, c'est quatre fois pire en vrai qu'à la télé, cette aventure, mais c'est aussi pour ça que c'est l'aventure d'une vie, parce qu'elle est incroyable, parce que quand vous revenez avec plein de bonnes intentions, et malheureusement bah la société vous rattrape, hein. Vous dites je traînerai moins sur mon téléphone, j'essaierai d'être plus proche de mes amis, de mes parents, de vous rapprocher un peu d'une vie un peu plus simple, un peu moins 2.0, et au final on est quand même dans une société qui est quand même très très technologique, donc faut aussi vivre avec.
T'étais revenu toi avec ce genre de résolution. T'avais quoi en tête en particulier?
J'avais juste l'idée de qu'effectivement on profite pas assez de nos proches, qu'on est dans un monde qui nous pousse à être quand même toujours très égoïste. C'est vrai, je trouve que la société d'aujourd'hui est une société très violente, qui plus est avec les réseaux sociaux où tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'on est dans une société où on est obligé un peu de se refermer sur nous-mêmes pour un peu se protéger de, alors qu'au final c'est l'inverse qui devrait se passer. Les réseaux sociaux, le principe du réseau social, c'est d'être social, c'est de s'ouvrir justement à d'autres personnes. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, j'adore Twitter parce que justement, j'ai la chance de pouvoir côtoyer, de parler et de rencontrer des gens que je ne connais pas ou que j'aurais peut-être jamais connus, et d'essayer de faire justement la part des choses avec toute la méchanceté qu'on peut recevoir aussi, parce qu'on en reçoit. Mais c'est jamais facile. Tout le monde dit, il suffit de pas les lire, mais malgré tout, c'est comme une critique. Même si elle ne nous blesse pas, elle nous atteint indirectement toujours. Donc, j'essaie aujourd'hui de quand même d'avoir une approche différente dans mon quotidien, même si je m'aperçois quand même que entre les intentions que j'avais et ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même aussi un petit écart.
Surtout que tu t'es fait éliminer du jeu, en tout cas la première fois, si je me trompe pas, de la pire des façons, c'est-à-dire que tu t'es fait jeter suite à la réunion des ambassadeurs. Pour les gens qui connaissent pas, en gros, il y a deux équipes. À un moment donné, ils envoient chacun un émissaire.
C'est ça.
Et puis ils doivent négocier pendant un certain temps, jusqu'au moment où ils décident de soit ils jouent eux-mêmes leur propre place, soit ils décident de quelqu'un, et tu t'es fait balancer.
Exactement, par ce qu'on appelle un ami, hein, parce que nos amitiés sont très fortes sur Koh-Lanta, donc c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout, mais c'est ça aussi qui est fort et qui fait que la dureté de cette décision a été aussi dure à encaisser qu'à revivre après.
Oui, j'imagine.
L'aventure, faut partir du principe qu'on la vit deux fois, hein. On la vit sur place et on la vit face à la. Enfin, quand on regarde aussi les images, et c'est vrai que ça a été dur, mais c'est ce qui fait aussi qu'elle a été belle. Paradoxalement, aujourd'hui, c'est à travers la douleur qu'on se sent vivant. Je veux dire, c'est le principe du yin et du yang, hein. Donc par rapport à ça, effectivement, c'est ce jour-là, tristement, que je me suis rendu compte que j'avais eu la chance d'avoir vécu 20 jours incroyables. J'ai perdu plus de 9 kilos et ça s'arrêtait brutalement, mais j'ai malgré tout essayé de retenir le positif, parce que quelle incroyable aventure, quoi. L'aventure d'une vie, comme je l'ai dit sur le moment.
C'est quoi les émotions qui te traversent à ce moment-là quand tu te rends compte?
Il y a tout. Il y a de l'incompréhension, de la colère, de l'émotion. Il y a de l'incompréhension parce qu'effectivement, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un coup près qui nous tombe dessus et je m'y attendais pas du tout. Il y a de l'émotion parce que justement, on a créé des amitiés fortes avec certains de nos camarades et qui pleurent devant nous, donc on se dit, on va manquer à des gens, et c'est touchant de se dire waouh, quoi, tout ce que j'ai vécu avec ces gens-là, on voit ceux à qui on va manquer, ceux à qui on ne va pas manquer, et ils nous l'expriment à travers des mots, à travers des gestes, à travers des larmes, et c'est là où on se dit que cette aventure, elle est incroyablement puissante, et que justement jamais on revivra une aventure pareille, parce qu'on aura beau l'expliquer, la montrer à la télévision, ça a beau exister depuis plus de 20 ans, c'est incroyablement puissant, parce que c'est incroyablement vrai. Souvent on dit mais ça doit être trafiqué, non, justement, c'est totalement freudien comme concept. Vous prenez juste 10 hommes et 10 femmes, qui ont quand même des personnalités particulières. Vous prenez surtout un melting pot, c'est-à-dire vous avez tout de 18 à 60 ans. Et vous laissez, entre guillemets, la magie de l'être humain opérer, c'est-à-dire avec ses qualités et ses défauts. Et de temps en temps, ben, il se passe des choses comme ça, c'est-à-dire des trahisons. Mais ces trahisons-là vous font aussi vous rendre compte de ceux qui vous aimaient vraiment. Et donc, dans votre tête, il se passe une multitude de choses. Et vous essayez malgré tout, en tout cas, ça a été mon cas, de retenir le positif parce que qu'est-ce que c'était incroyable, quoi. Qu'est-ce que c'était incroyable.
Comment ça se passe? Parce que j'ai souvenir que tu réagis de façon très digne, en fait.
Ben, j'essaye, parce qu'au final, je veux dire, évidemment que je suis en colère, mais ce que je veux dire, c'est que mes émotions prennent le dessus sur la colère, et c'est ça que je retiens, en fait. C'est que, bien sûr que j'ai envie d'être en colère, mais de toute façon, je suis éliminé. Je peux rien faire, c'est trop tard, et il me reste plus que quelques minutes, entre guillemets. Mmh. Donc j'ai envie de profiter, m'expliquer. J'ai quand même une explication assez houleuse avec deux émissaires avec lesquels je l'en aurais voulu, parce que de toute façon, comme je le disais, il y a aussi des inimitiés. On leur veut toute notre vie presque, parce que c'est une aventure qui est tellement incroyable qu'ils nous l'ont coupé. Mais c'est aussi le jeu. Il faut l'accepter. Alors attention, hein, j'ai dû mettre six mois à l'accepter. Hein, mais,
ah ouais.
Non, je rigole. Mais je veux dire.
Non, mais t'as le droit en plus.
Ce que je veux dire, c'est qu'on met du temps à accepter, en fait, parce que bizarrement, on l'accepte plus facilement. Sur le moment, et plus difficilement au moment où c'était où on revoit la télé.
Ok.
Parce qu'en fait, sur le moment, on est tellement fatigué, c'est tellement dur que bon, c'est un coup près, mais il faut l'accepter. Mais ensuite, quand on le regarde à la télé, ben on est justement dans notre canapé, on a mangé, et c'est là où c'est compliqué, parce que nos proches ne comprennent pas forcément notre réaction, en disant mais pourquoi tu l'as pas plus voulu, pourquoi. Et c'est eux qui arrivent presque à nous faire revenir sur une réflexion, en disant mais c'est vrai, pourquoi je n'en ai pas plus voulu, ou pourquoi. Mais au final non, parce que c'est la vraie émotion, c'est celle qu'on a eue sur le moment.
Mais c'est ça, j'allais dire sans doute que tu lui en as pas plus voulu, parce que au fond, affamé et ayant peu dormi, etc., c'est peut-être ce qui ressort de toi à ce moment-là, quoi, tu vois, du vrai.
Et surtout, voilà, dans la vie, il y a toujours la façon de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, et j'essaye d'avoir cette philosophie de vie par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie, pour essayer de voir toujours là, un côté le verre à moitié plein, parce que c'est voilà, on vit tous des choses compliquées, et par rapport à ça, je suis conscient que je suis passé au casting, que j'ai fait cette aventure. Voilà, aussi dans cette tête, faut pas être trop égoïste. Faut être conscient qu'il y a des milliers de personnes qui rêveraient d'être à ma place. Donc dans ma colère et dans mon émotion, il faut aussi voir le positif. Et il y en a eu, et en plus j'ai eu même la chance de revivre une deuxième fois cette aventure. Mmh. Faut être assez conscient de la grande chance que j'ai eu de le faire deux fois en quatre ans.
Quelle place pour toi la masculinité, pour revenir au sujet du podcast, dans un programme comme Koh-Lanta ?
Il est très intéressant parce que et je trouve qu'il évolue énormément, parce qu'avant ce qui était intéressant à Koh-Lanta, c'était qu'il fallait garder les hommes forts. Souvent on regardait, au début on disait qui dit homme dit fort, donc faut garder. Et aujourd'hui ça a changé. Aujourd'hui on voit à quel point la femme a pris une place prépondérante, aussi bien au niveau stratégique que physique, que mental, et que c'est ça, je trouve que c'est incroyable. Si on regardait les premières saisons de Koh-Lanta, où justement, à l'époque, il y a certains qui avaient des propos presque durs envers les femmes, et aujourd'hui, à quel point la femme a une place prépondérante, et c'est pas forcément justement toujours des femmes qui partent en premier, alors qu'avant c'était quasiment une obligation, enfin pas une obligation, mais une évidence, voilà. Alors qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ce qu'on pouvait appeler à l'époque des gens sur le papier moins forts arrivent à se révéler dans une aventure comme ça, parce que Koh-Lanta, c'est pas que du muscle. Si c'était que du muscle, ben, il y a les Jeux Olympiques pour ça. Non. Koh-Lanta, c'est de la réflexion. Koh-Lanta, c'est la majorité. Donc, même si vous êtes une majorité de cons, ben, vous pouvez quand même l'emporter. Et c'est ça qui est fort, Koh-Lanta. C'est que c'est rarement les meilleurs qui gagnent, mais c'est quoi le meilleur ? C'est qui le meilleur ? Ouais. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et je dis, c'est pour ça que Koh-Lanta, c'est un résumé de la vie, dans le sens où dans la vie, ben, tout n'est pas toujours très juste. La vie est injuste, comme dans Koh-Lanta, mais à vous aussi de vous faire votre place. Et c'est ça que j'adore dans ce programme, et c'est pour ça qu'il plaît encore. On fête quand même les 20 ans de Koh-Lanta cette année. C'est qu'il évolue aussi en fonction de notre société, et je trouve que moi, j'admire beaucoup toutes les femmes qui font Koh-Lanta. Parce qu'aujourd'hui, elles montrent à quel point elles prennent vraiment une place totalement différente de ce qu'elles avaient à l'époque.
Ouais, c'est vrai. Je crois que si on remonte dans les vieilles saisons, mais déjà de base, il y a toujours eu des femmes
qui se sont démarquées. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, c'était vraiment on garde les hommes, on garde les mecs costauds, un peu le côté brut. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Non, aujourd'hui, il y a des candidats qui sont sur le papier incroyables. Je pense à Mathieu, qui est un coureur de marathon, qui a été éliminé très tôt. Parce que justement, des gens ont décidé de l'éliminer plus tôt, parce que voilà. Donc c'est ça qui montre aujourd'hui que non, le simple fait d'être fort sur Koh-Lanta ne suffit plus. Il faut aussi être vivre avec son temps, et que vivre avec son temps, c'est qu'on est ouvert vers tout le monde, et que la plus grande erreur aujourd'hui, c'est justement de penser qu'un homme sportif va forcément aller loin.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il faut parler un petit peu aussi pour les gens qui savent pas. Peut-être que si les gens suivent un peu l'émission et qui vous suivent sur les réseaux,
oui.
Mais vous êtes très proches, tous les candidats, mais
bien
de
sûr.
Toutes les saisons.
C'est ça.
Que vous avez un truc qui s'appelle les copains.
C'est alors ça. Oui, ensuite, parce que dans la littérature, on dit toujours il y a le lien de sang. Et il y a le lien de lait, c'est-à-dire on explique toujours que quand des gens grandissent ensemble, on appelle ça le lien de lait. Et moi, Koh-Lanta, j'appelle ça le lien de terre, le lien d'aventure. C'est qu'en fait, comme j'aurais beau l'expliquer des heures et des heures à quel point cette aventure a marqué ma vie, malgré tout, personne ne comprendra vraiment, excepté ceux qui l'ont vécu. C'est pour ça que Koh-Lanta, c'est une famille. Mais attention, quand je dis que c'est une famille, dans une famille, on s'entend pas tous. Très bien, il y a des oncles ou des tantes avec lesquels on n'a aucune affinité, et pourtant, de temps en temps, on est obligé de les voir. Il y en a qu'on déteste aussi, il y a des cousins qu'on n'aime pas du tout. Et Koh-Lanta, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec lesquels, il y a des cousins germains avec lesquels on est très proches. C'est une famille au sens large du terme. Et pourquoi c'est une famille? C'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que eux qui peuvent comprendre un petit peu ce qu'on a vécu. Voilà, c'est pour ça que moi je me souviens, j'étais à l'aéroport un jour et j'avais croisé l'un des premiers gagnants de Koh-Lanta qui était lyonnais. Et pourtant on s'était jamais vu. Et ben on a parlé pendant une demi-heure comme si on se connaissait. C'est ça qui est dingue en fait dans cette aventure, c'est que justement on a un lien qui fait qu'on arrive à parler et à côtoyer des gens incroyables. Voilà.
Parlons de ta greffe, si tu veux bien.
Bien sûr.
Et parlons peut-être de ta calvitie avant ça, parce que comment vient ton chemin de je commence à perdre mes cheveux, je sais pas à partir de quand. Enfin moi je les ai perdus, j'ai commencé à les perdre à partir de 18 ans, donc très tôt, quoi, tu vois. Jusqu'à je vais me faire une greffe. Et puis même après, je vais décider d'en parler sur les réseaux, quoi. C'est quoi le chemin exactement?
Le chemin, une nouvelle fois, il est pas calculé. C'est intéressant que tu dises ça. Le chemin, en fait, c'est que j'ai commencé, je pense, à perdre mes cheveux. Tu vois, lors de mon premier Koh-Lanta, j'ai pas de calvitie. On voit que ça commence à être un peu clairsemé, mais il y a pas vraiment de prémisse. Même si j'ai un grand front, hein, ça je l'ai toujours eu. Et c'est vrai qu'en fait, au fil des années, et notamment sur mon deuxième Koh-Lanta, on voit quand même qu'il y a une calvitie un peu marquée. Et c'est vrai qu'au final, ce qui est terrible dans la calvitie, c'est que ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. C'est-à-dire, en l'espace de quelques années, mais on se retrouve vraiment avec quasiment plus rien sur la caboche. Et c'est vrai qu'en fait, le complexe, il vient petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, on vous taquine dessus, parce que justement... c'est léger, donc on taquine toujours quand c'est léger.
Qui c'est qui taquine? C'est tes potes?
Les amis, bien sûr que les amis, évidemment. Enfin, je veux dire.
Est-ce que eux-mêmes avaient peur d'être chauve?
Est-ce que quoi?
Est-ce que eux-mêmes avaient peur d'être chauves?
Bah, bien sûr,
mais charrie pour ça.
Mais c'est ça qui est dingue en fait, c'est que la calvitie est, je crois que ça touche 50% des hommes. Donc en fait, c'est un vrai sujet et c'est une vraie peur de la part de tout le monde. Et tout le monde essaie de se dire, mais est-ce que mon père a quelle est l'implantation capillaire de mon père? Et en fait, moi, mon père a des cheveux incroyables. Mais en fait, j'ai pris l'implantation capillaire de la part de mon grand-père du côté de ma mère, qui en fait était effectivement lui chauve. Donc il n'y a pas de logique là-dedans. Donc on a beau essayer de se rassurer à droite à gauche. Moi, je me souviens la première fois, j'étais allé voir une spécialiste justement des cheveux et pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour justement pour faire quelque chose par rapport à ma chute de cheveux. Et j'avais adoré ce qu'elle avait dit. Elle avait dit dans tous les cas, on pourra faire plein de choses. Tout ce qu'on va faire, ça va ralentir la chute, mais la chute, elle y sera dans tous les cas. C'est humain. En fait, apparemment, c'est une question de testostérone. C'est-à-dire que plus vous êtes justement poilu du torse, des épaules et du dos, c'est de la testostérone, plus vous êtes assujetti à perdre vos cheveux au niveau du crâne. Voilà. Donc c'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire que c'est ce que je dis. Je suis né au mauvais siècle, entre guillemets, au Moyen-Âge où il y a encore 70 ans, mes poils sur le torse auraient été assez sexy et comme Sean Connery, j'aurais pu me raser la boule. Mais c'est vrai que bon, aujourd'hui, dans mon cheminement de perte de calvitie, en plus moi j'avais une double perte, hein, c'est-à-dire que j'avais une perte devant et derrière, c'est-à-dire que j'avais le trou qui se faisait au niveau à la zidane, exactement, sauf qu'en plus j'avais ce qu'on appelle le sourire de l'ange, c'est-à-dire qu'en plus j'avais des golfs qui se créaient, donc au bout d'un moment ça allait se rejoindre. Donc le cheminement en fait il se fait mais très lentement, dans le sens où on perd pas d'un coup ses cheveux, mais en même temps on se voit perdre. Donc on achète des shampoings anti-chute, on essaye même d'acheter quelques cachets où c'est des, ce qu'on appelle des compléments alimentaires, parce qu'effectivement ça peut jouer. Il y a aussi le stress, moi je suis un grand stressé, hein, donc il y a une multitude de choses. Faut dire aussi que Koh-Lanta fait pas beaucoup de bien. Parce que Koh-Lanta, on vit quand même dans des conditions d'hygiène assez compliquées. Et donc, même les filles, quand elles reviennent de Koh-Lanta, elles essaient de revitaliser un petit peu leurs cheveux parce que on en pâtit beaucoup. Moi, j'ai vu, après mon premier Koh-Lanta, c'est sûr que c'est là où j'ai commencé à le plus en perdre. Et puis, au bout d'un moment, ben, il se passe quelque chose dans notre tête. On va dire là, il y a une conclusion qui doit se passer, c'est qu'on perd tellement de cheveux, c'est que soit on rase, soit on fait autre chose. Voilà, c'est vrai. C'est qu'au bout d'un moment, bon ben, on a de moins en moins de cheveux, donc la solution, c'est de raser, hein, c'est vrai. On rase et on assume. Et même, je trouve que raser, c'est pas assumer en fait. Raser justement, c'est bon, c'est essayer de cacher, ouais. de le cacher. Donc je me suis dit.
T'as testé la boule à zéro ou pas?
Ben, je l'ai testé la veille de ma greffe en fait.
Ah yes, bah oui.
Et parce que dans ma tête, il était impensable que je me rase justement. Moi, j'ai un peu des cheveux particuliers, hein. J'ai un peu des cheveux à la Mozart. C'est vrai que je ressemble de temps en temps un peu à Bozo le clown, hein. Non mais c'est vrai, j'avais des cheveux un peu à la Jacques Chirac. Je les plaquais contre ma tête. Donc c'est vrai qu'on essaye de les cacher de plein de manières. Et donc le cheminement, dans ma tête, je me suis toujours dit, je ferai une greffe parce que je pars du principe que c'est un complexe et qu'en fait faut assumer un complexe. Un jour, je me souviens, j'étais en soirée, il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion, quelqu'un que je ne connaissais pas, et je me suis dit voilà, à partir de je savais dans ma tête que je voulais faire une greffe. Mais
qu'est-ce que cette personne t'a fait comme réflexion?
Non, mais il m'avait pas vu depuis longtemps. Et c'est un petit peu, on dit toujours qu'on voit pas nos enfants grandir, alors que les autres personnes, tout de suite, quand ils ont pas vu par exemple quelqu'un depuis 6 mois ou 1 an, voient à quel point la personne a grandi. Alors que moi j'ai pas d'enfant, mais on dit toujours ça. Et c'est vrai que cette personne qui m'avait pas vu depuis longtemps m'a dit ah ouais, enfin c'est voilà. Et lui m'a parlé aussi de lui, il m'a dit regarde, moi je commence à perdre un peu de mes golfs. Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit, dans tous les cas, je savais que dans ma tête j'avais un cheminement de faire une greffe. Et aujourd'hui, grâce à Internet, on peut se renseigner. Aujourd'hui, on peut justement voir ce qui se passe. Et il y a quand même une nouvelle méthode de greffe qui est extrêmement bien faite. À l'époque, le vrai problème, c'est qu'on greffait des plaques de cheveux. C'est-à-dire que c'était très douloureux. Il y avait des cicatrices. C'est-à-dire alors j'ai pas du tout les termes techniques, mais je crois qu'on arrachait des plaques pour les remettre. Mais en arrachant les plaques,
on les prenait par derrière,
mais on prenait comme du gazon. C'est-à-dire que on prenait vraiment des bandes entières de gazon pour les recoller au-dessus. Mais ça faisait des traces et c'était extrêmement visible. Alors que aujourd'hui, et on le voit, c'est devenu un tel complexe masculin, enfin, c'est pas un complexe, c'est devenu un vrai sujet, en fait. C'est devenu un tel sujet que, ben, la médecine évolue. Pourquoi? Parce que si elle évolue, ça veut dire qu'il y a de l'argent à faire. C'est comme tout, hein. C'est comme nos téléphones, c'est comme, voilà, si ça peut toucher le plus grand nombre, et je pense que demain, d'ailleurs, ça va se démocratiser de plus en plus. Aujourd'hui, en fait, on fait quelque chose d'incroyable, c'est que, on vous prend un à un, des greffons un à un. C'est-à-dire que non seulement c'est pas douloureux, ça j'en reviendrai après, mais en plus, c'est juste de la patience et de la minutie, mais il y a ni cicatrice, ni trace. Et c'est ça qui est incroyable. Donc, quand on voit des vidéos, quand on voit le côté avant-après, la première chose qu'on se dit, c'est « Non, j'y crois pas. »
C'est pipeau.
Hein. Non, mais c'est, bah, évidemment, comme le vu à la télé, quoi. C'est pipeau. Donc, c'est vrai qu'il y a une troisième option. C'est la vidéo que t'as faite.
Ouais.
C'est cette option incroyable de se faire coller une sorte de postiche, mais extrêmement bien fait. C'est des vrais cheveux qu'on va chez le coiffeur, on les coupe. Enfin, ta vidéo le résume extrêmement bien. Mais une nouvelle fois, on a quand même quelque chose de collé sur notre crâne. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se rase. Donc, c'est compliqué. C'est un cheminement où, dans notre tête, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, un jour, j'ai dit, j'avais une réflexion, j'ai l'avantage d'avoir un ami justement qui est là-dedans, qui est spécialisé là-dedans, et c'est toujours plus facile effectivement, parce que aujourd'hui aussi se pose la question, je pars un peu dans tous les sens, hein, non, dis-moi
vas-y,
si
vas-y,
là,
vas-y.
Se pose la question de savoir si on fait ça en France ou à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'en France, faut pas se le cacher, ça a quand même un coût. Alors que à l'étranger, notamment en Turquie ou en Tunisie,
c'est la
Tunisie,
fameuse blague. T'es allé passer un week-end en Turquie.
Oui, c'est ça. Voilà. Oui, et surtout en Turquie, ils font ça extrêmement bien. Il faut préciser que énormément de Turcs viennent en France, sont formés en France, parce qu'on a quand même des médecins incroyables en France, sont formés en France, retournent en Turquie et font ça parce que c'est de la minutie. Hein, c'est incroyable. C'est un travail d'orfèvre. Et donc, c'est vrai que, en Turquie, ils ont pas les mêmes impôts ou autres que nous. Donc, forcément, c'est moins cher. Mais moi, j'avais envie, le côté un peu cocorico, de faire ça en France, de mettre en avant aussi le savoir-faire français. Et donc, j'ai mis du temps avant de le faire. Et un jour.
Combien de temps, à peu près? Entre le moment où tu t'es dit.
Un an et demi.
OK.
Un an et demi. Voilà.
C'était quoi ce temps de réflexion?
C'était en fait
de réflexion.
C'était du dialogue avec mon ami, justement, du dialogue où il me disait on va essayer plusieurs méthodes. Il y a une méthode qui s'appelle le PRP, où en fait on vous injecte. Alors malheureusement, techniquement, je suis très mauvais, on vous injecte dans le crâne. Je crois, c'est votre sang qu'on a fait tourner, et c'est censé vous rebooster, vous redynamiser. Mais pareil, ça c'est une nouvelle fois, ça ralentit ou ça accentue, mais ce n'est pas le même effet que quand vous faites une greffe. Et donc un jour j'ai dit allons-y. Et c'est vrai que je me suis donc rasé la tête. Première chose, quand j'étais avec ma copine, elle a dit ça te va pas si mal. Donc, on se dit mince. On se dit mince. Bon, c'est déjà bien, au cas où.
Mais je veux dire, t'avais jamais testé auparavant.
Non.
Tu t'étais jamais dit été, tiens, ok, c'est cool,
non,
je vais essayer, quoi.
Non, 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 non. Et puis surtout, quand vous faites votre greffe, vous devez vous raser, vraiment raser complètement.
À blanc, quoi.
Voilà. Parce que, en fait, ils vous arrachent les. On a deux implantations de cheveux. Vous avez l'implantation, ce qu'on appelle une implantation éternelle. C'est-à-dire que sur les côtés, vous avez des cheveux, apparemment ce sont vos cheveux éternels. Alors attention, on en a plus ou moins. Et l'avantage, moi, c'est que j'ai ce qu'on appelle une belle zone donneuse. C'est-à-dire que c'est là où ils vous prennent vos propres cheveux, qui vous remettent juste là-dessus. Voilà. Donc c'est ça qui est incroyable. Donc ils vous arrachent des greffons. Ça dure à peu près 6 à 7 heures. Ils vous arrachent, en fait, pendant les trois premières heures, ils vous arrachent 1200 greffons. Dans un greffon, il y a à peu près entre 3 et 5 cheveux.
Okay.
Donc ils vous arrachent 1200 greffons. Donc quand je dis que c'est un travail d'orfèvre, c'est qu'il est là, un à un. Pendant 3 heures, il va arracher 1200 greffons qu'il va poser sur des petites compresses. Donc ensuite, il fait une petite pause d'une demi-heure. Il fait une petite pause d'une demi-heure et il revient. Et là, il vous fait 1200 trous et il va les remettre un à un. Sachant que je tiens à préciser que on ne sent pas du tout la douleur. C'est-à-dire que la douleur, elle dure les 3-4 premières minutes, le temps de l'anesthésie locale. C'est-à-dire que on vous injecte dans votre crâne de l'anesthésiant. Vous avez l'impression d'avoir un casque. Vous avez l'impression d'être le Daft Punk. On fait un petit hommage, d'ailleurs, à ce qui se sépare. Vous avez l'impression d'être... Mais par contre, vous ne sentez rien. Je me suis même endormi, moi.
Okay.
Je me suis endormi. C'est-à-dire que vous êtes allongé, donc c'est long.
Oui, c'est long.
Moi, je me suis mis j'avais un livre audio, je me suis mis un petit podcast. Enfin, voilà, on peut t'écouter d'ailleurs pendant ça, hein, sa petite dédicace. Voilà, donc c'est vrai que c'est indolore, on sent rien. Et à la fin des 7 heures, il faut juste faire attention la première nuit, parce que il faut que ça croûte, entre guillemets, hein, je sais que ce mot fait toujours grincer les dents, mais il faut qu'une croûte commence à se créer pour justement le cheveu prenne. Une fois que la croûte s'est créée, au bout de 14 jours, vous pouvez commencer à vous laver les cheveux. Et là, bah, les croûtes tombent, les cheveux tombent, et ensuite ça repousse. Voilà.
Aussi simple que ça.
Très sincèrement, il faut juste accepter, en fait, un, de se raser la tête. Deux, effectivement, de pas être, on va dire, dans notre sex appeal, l'attitude, les 3-4 premiers jours, c'est pas forcément ça.
On va en reparler. T'as pris une photo.
Et ensuite, ben, assumer que ça va retomber et que la repousse, en fait, elle est très lente. Ça met à peu près 6 à 8 mois à repousser.
Okay.
Donc voilà. Et ce qui était dingue, c'est que moi tout de suite j'ai mis une photo sur Instagram. Je suis pas très Instagram. Bon, c'est vrai que je suis plus Twitter. Je préfère m'exprimer avec des mots qu'avec des photos. Mais je l'ai mise sur Instagram.
Je vous mettrai les liens, hein, pour les gens qui veulent voir.
Et ce qui est assez dingue, c'est que j'ai reçu des centaines et des centaines de messages que positifs. Vraiment, en disant tu as osé. Et c'est là où je me suis aperçu à quel point en fait c'était un vrai sujet. C'est que les gens s'en inquiètent, entre guillemets, et j'ai eu la chance de côtoyer des gens de Bainsport ou autres qui me disaient « mais c'est dingue que tu aies osé en parler ». Et j'ai même des sportifs qui m'ont écrit et qui m'ont donc demandé des conseils et qui, eux, ne l'ont pas l'ont fait, mais ne l'ont pas montré. Ouais. Et ils garderont évidemment l'anonymat, mais je veux dire, aujourd'hui, je trouve que c'est aussi important d'en parler parce que c'est un complexe qui touche beaucoup de personnes et que, attention, un complexe, ça veut pas dire que c'est quelque chose de grave, hein. Un complexe, ça s'appréhende de plusieurs manières, hein, on l'a dit, soit on se rase, soit on fait des choses, mais un complexe, je pense que ce qui fait du bien, c'est aussi d'en parler. Parce que moi, j'ai pas pu répondre, je l'avoue, hein, à toutes les personnes qui m'ont écrit. Et c'était dingue à quel point les gens, ensuite, quand je postais des photos, suivaient l'évolution. En fait, ils suivaient en disant, ah, mais ça met du temps à repousser. Et pourquoi c'est comme ça? Et qu'est-ce qui se passe? Et notamment, j'ai mis une photo où j'étais tout gonflé du visage.
Cette fameuse photo, genre 2-3 jours plus tard.
Exactement. Parce qu'en fait, c'est les injections qu'on vous fait de l'anesthésie locale. Retombe en fait. Donc il y a une chose très simple pour qu'il n'y ait jamais ça, c'est de se mettre un bandeau en fait. Mais moi je l'ai totalement zappé de mettre ce bandeau. Donc résultat, cette injection est tombée. Donc
t'as le visage complètement déformé.
Complètement déformé, gonflé.
T'as fait un match de boxe.
Ah mais c'est ça. On dirait que je revenais justement de ma série amateur. Et en fait ça aussi, cette photo, j'ai voulu la mettre parce que ça fait partie, en fait, voilà, c'est moi. Et je pense que pour assumer ces complexes, le plus important, c'est savoir déjà rire de soi en premier. Voilà. Et attention, je dis pas que c'est facile, je dis pas que...
Oui, il faut du courage pour
faire ça. Et surtout, ce qui est un petit peu dommage là-dedans, c'est que ensuite, la société 2.0 fait que vous avez CNews, CNews, Voici, Gala.fr, qui reprennent en disant Alban défiguré. Alban est défiguré après une opération, enfin... Ils font un peu les gros titres. Parce que, voilà. Ensuite, les articles étaient toujours bienveillants et gentils. Mais c'est vrai que c'est un peu des titres un peu racoleurs et qui sont dommages. Mais en même temps, ça a fait parler. Et c'est ce que m'a dit, le chirurgien qui m'a fait ça. Il a dit, oula, mais tu as vu les titres qu'ils mettent, est-ce que ça te gêne pas? Et j'ai dit non. Au contraire, je dis ce qui est important, c'est d'en parler. Et moi, ça fait le visage que j'ai eu, cette greffe, c'est aussi ce qui s'est passé. C'est comme un accouchement. Faut arrêter de faire croire qu'une femme accouche et que tout se passe bien, que c'est facile. Non, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une libération de la parole de la femme sur les accouchements, que c'est pas facile, qu'il faut justement s'entraider. Et ben, attention, je mets des grands guillemets là-dedans, mais c'est vrai que j'ai ma productrice justement qui a accouché récemment et je trouve qu'elle apprend ça de manière tellement positive et incroyable mais dans l'échange de l'autre, qu'aujourd'hui, ben voilà, on a l'avantage d'avoir des réseaux sociaux, et ben parlons-en, assumons les critiques aussi, parce que ça veut dire que si on en parle, ben, on va se faire critiquer, mais toutes les critiques qu'on va recevoir, ça va peut-être aussi aider des personnes, peut-être, à passer le cap, donc ben écoutez, tant mieux, hein, voilà.
Non, mais c'est très, enfin, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais te parler aussi dans ce podcast-là, c'est que je trouve que c'est très, très bien de prendre cet exemple-là, tu vois, et après d'entendre que tu l'as bien vécu et qu'il y a pas eu forcément de problème.
Oui,
pour toi,
et surtout de se dire que on a tous nos complexes, hein. Moi, je suis pas très grand. Enfin, j'ai plein de défauts, hein. C'est ce que je disais, hein. Je veux dire, voilà, on fait plein d'erreurs dans nos vies. Le but, c'est d'essayer de voir de quelle manière on peut s'améliorer. Et ben, de temps en temps, voilà, on avait l'impression que la chirurgie esthétique était uniquement pour les femmes. Et, alors que, ben non, on a, les hommes ont aussi des complexes. Les hommes ont aussi, c'est ce qu'on disait au tout début, ont le droit d'être coquet, ça n'enlève rien à ce mot virilité qui veut plus dire grand chose aujourd'hui, parce que justement la coquetterie n'empêche pas la virilité. Qu'est-ce que la virilité aujourd'hui, hein? Donc non, ce qui est important, c'est justement d'en parler, parce que ça veut dire que les gens, ben, s'ils ont un vrai complexe, eh ben, ils passeront peut-être le cap, surtout aujourd'hui avec la nouvelle technologie. Faut quand même, enfin, je sais pas si on peut pas appeler ça de la technologie, mais la nouvelle façon de faire, c'est-à-dire que le côté, je trouve que c'est vraiment bien fait, quoi. Voilà, c'est assez incroyable l'approche dont ils font ça.
Ça coûte combien si c'est pas enregistré?
Alors en France, c'est pas donné. En France, c'est pas donné. En fait, une nouvelle fois, c'est difficile de donner un prix, dans le sens où ça va dépendre de votre calvitie, du nombre de greffons qu'on va vous poser. Donc en fait, faut compter un certain prix par rapport à un greffon. Et puis, je pense une nouvelle fois que cette pratique-là va se démocratiser de plus en plus. Et ben, c'est comme tout. Quand au début, c'est un peu inabordable financièrement. Attention, c'est un coût, hein. Faut compter au minimum pour une greffe, au minimum, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais 4 000 euros à peu près, hein, quand même. Donc, attention, en Turquie, c'est beaucoup moins cher. Mais une nouvelle fois, je pense qu'en France, ça va se démocratiser de plus en plus, qu'on va avoir des prix abordables. Mais attention, faut pas brader non plus, parce que c'est de la chirurgie. C'est-à-dire que faut pas faire ça n'importe comment. C'est pour ça que moi, je voulais aussi faire ça en France, parce qu'attention, on m'a proposé. Oui, ça c'est très intéressant de le dire. On m'a proposé de faire ça gratuitement en Turquie, entièrement filmé, pour mettre en avant justement des centres en Turquie. Alors que là, je tiens à préciser que j'ai payé, hein, évidemment. Et c'est ça qui est important de le préciser, c'est que justement, je connais l'expérience de A à Z et que j'ai pas fait de placement de produit. Ah oui, ça aussi c'est important de le préciser, c'est que j'ai pas fait des photos pour faire un placement de produit. Ouais. J'aurais pu. Parce qu'on m'a, j'ai plein de centres en Turquie qui m'ont proposé de le faire. On est filmé, on met sur Instagram, on poste. Et attention, une nouvelle fois, c'est bien ça aussi, parce que ça permet. Au final, avec le recul, je me suis dit, ben pourquoi pas? Parce que ça permet, ça aurait montré encore plus toutes les étapes de ce qui se passe. Et donc que vous fassiez ça en France, en Turquie, ce qui est très important, c'est d'aller dans des centres sérieux, parce qu'une nouvelle fois, ça reste de la chirurgie.
Ok, c'est bien noté. Tu regrettes pas, toi, aujourd'hui, avec le recul, de l'avoir partagé comme ça sur les réseaux? Parce que t'aurais pu faire comme plein d'autres mecs, le cacher.
Oui.
Et je crois que personne s'en serait jamais vraiment rendu compte. Ou en tout cas, peut-être les gens que tu connais, très proches.
Les gens s'en seraient forcément rendu compte, parce que je pense que ça se voyait quand même, mais ça faisait partie de moi. Hein. C'était moi aussi. Hein. J'ai un grand front. Voilà. Je pense que c'est ce qui fait aussi ma personnalité, pourquoi on me reconnaît assez facilement. Mais je voulais le partager dans le sens où, une nouvelle fois, je pars du principe que ça a été un complexe, et que le meilleur moyen de combattre nos complexes, c'est d'en parler. Voilà, c'est d'en parler. Donc évidemment, quand on en parle dans notre propre cercle, c'est bien. Mais en fait, je évidemment, on a toujours peur et une appréhension, quand on met ce genre de photos sur les réseaux sociaux, de la réaction des gens. Parce qu'on sait jamais comment les gens vont réagir. La preuve, quand on voit les titres un peu racoleurs qui ont été mis, ça peut nous inquiéter. Mais au final, quand j'ai vu les centaines de messages de gens qui m'ont posé des questions et auxquels, malheureusement, je n'ai pas pu répondre, je me dis qu'en fait, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui concerne beaucoup de personnes, auxquelles, ben, justement, avec ma toute petite, je mets des grands guillemets, on va dire notoriété, je mets des guillemets à ce mot-là, ben, ça a permis un peu d'en parler. La preuve, on est en train de faire un podcast là-dessus et d'en discuter. Eh ben, tant mieux. Tu vois, quand tu m'as appelé sur cette démarche, la première question qu'on se dit, c'est: oula, est-ce que j'ai encore envie d'en parler? Mais oui, Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, est-ce que, tiens, il m'appelle, il veut qu'on parle de ça, est-ce que j'ai envie d'en parler? Mais oui, il faut en parler parce que ça veut dire que peut-être, dès l'instant qu'on peut aider, avec des grands guillemets, des personnes à peut-être passer le cap ou soit à s'assumer, soit à passer le cap, eh ben, si on en est ne serait-ce qu'une seule, pour moi, c'est le plus important et c'est, ça fait du bien d'en parler.
Okay. Voilà. Merci beaucoup de partager ça, c'est cool.
Bah, c'était un plaisir.
Parlons un peu de cette escapade en Thaïlande.
Oui.
Donc, t'es parti pendant 7 jours.
C'est ça.
T'avais jamais fait de boxe.
Bon, j'avais fait un peu de boxe, mais pas de boxe thaï en tout cas. Ouais. Vie, c'est voilà. Ça, ouais.
Et tu te retrouves à faire. L'idée à la fin, c'est que tu te retrouves sur un ring à faire un match de boxe thaï contre un mec qui fait ça depuis des années, quoi, clairement.
C'est ça. Alors, ils m'ont pas mis un champion non plus, oui, face à moi. Hein. Il avait que 4 ou 5 combats. C'était pas effectivement un champion. Il faut le principe d'amateur, en fait, c'est d'avoir justement le culot et l'audace et le courage de monter sur ce ring. En fait, c'est en 7 jours, ce qu'on met en avant, c'est pas moi. Ce qu'on met en avant, c'est surtout les autres. C'est-à-dire que à quel point des sports, certains sports sont avant tout culturels. Et que en Thaïlande, qui est un pays extrêmement pauvre, même si effectivement on critique notamment les enfants qui font ça depuis le plus jeune âge, c'est aussi une possibilité, comme en France ou comme dans d'autres pays, de s'élever socialement. Et il y a un dialogue qui est incroyable entre justement mon coach et moi-même, où lui, il est devenu un grand champion. Quand il nous explique pourquoi, à quel point son père a été dur avec lui, à quel point c'est grâce à lui qu'il ramenait de l'argent pour toute sa famille, qu'il a été élevé de manière très durement, je lui dis, ah donc, aujourd'hui que tu as réussi, ça a été un grand champion, que tu as gagné de l'argent, quelle est ton approche, toi, avec tes enfants? Il dit, je suis tout aussi dur. Et c'est ça qui est dingue. On se dit, justement, vu que lui a pâti un petit peu de son éducation et de la dureté, non, ses enfants font aussi de la boxe thaï et que c'est un moyen aussi de se mettre en avant. Et c'est ça qu'on voulait faire transparaître. Et aujourd'hui, il y a tellement de documentaires sur la boxe thaï, sur la Thaïlande, sur autres. On se disait de quelle manière on peut avoir une approche différente, justement, de la culture. Et quand on souffre avec les gens, ils se dévoilent un peu. Et c'est incroyable, Mr B, qui était mon coach, au début, il s'est dit, c'est qui ce clampin qui arrive et qui a envie de faire de la boxe thaï? Il en voit, il y a beaucoup d'Européens qui viennent là-bas pour faire, mais il y a très peu qui montent sur le ring, en fait. Et c'est ça qui a fait qu'il y a une relation entre nous. Les premiers jours, il ne me considérait pas beaucoup. Et quand il m'a vu souffrir avec lui, quand il a vu que j'encaissais, que je tenais, la relation et l'échange qu'on a eu entre nous, je pense que ça se voit aussi dans ce documentaire, a été fort, très fort. À la base, il devait même pas m'accompagner sur le ring, ça devait être son adjoint. Il a tenu à être là, il ça l'a tenu à cœur, et quand on le voit sur les images, quand il est dans le coin du ring, à quel point il vit aussi mon combat, je pense que c'est notre plus grande victoire sur ce documentaire, parce que c'est de quelle manière aujourd'hui on peut faire découvrir des hommes et des femmes qui nous marquent et pourtant qui sont dans l'ombre au quotidien. Donc c'était ça qu'on mettait en avant.
Qu'est-ce qui te donne envie de te dire je vais aller monter sur un ring, parce que tu sais déjà que tu vas te faire casser la gueule
en fait,
au départ?
C'est le dépassement de soi. Aujourd'hui on vit dans un monde un petit peu aseptisé, et où on est obligé de faire un peu attention à tout, attention à ce qu'on dit. Moi, je suis parfaitement imparfait. Quand je bois, je suis extrêmement stupide. Enfin, je veux dire, voilà. Et je me dis, ok, de quelle manière je peux essayer aussi de me révéler différemment, de montrer un autre visage et surtout de montrer d'autres visages. Parce que le personnage principal dans ce documentaire, c'est pas moi. En fait, je suis secondaire. Moi, je sers à mettre en avant d'autres personnes. Et donc, de quelle manière ils peuvent se confier à nous? C'est qu'en côtoyant, on va dire, vraiment leur quotidien, mais pas juste en vivant avec eux, c'est en souffrant avec eux. Il est sur son scooter, il me fait aller courir 10 kilomètres, ensuite il m'envoie tout en haut d'un escalier, là où il va prier. Enfin, il y a que comme ça, au début, voilà, il me teste, et en me testant, il va se dévoiler. Et c'est ça, en fait, qui je me dis que si je ne monte pas sur le ring, il va pas se donner autant à moi et s'ouvrir autant. Et je pense que, moi je dis toujours, l'amour, c'est instantané. On peut tomber très, très facilement amoureux. Par contre, la confiance, le respect, ça se gagne toujours avec le temps. Et on ne se dévoile un petit peu que quand justement on a gagné un petit peu le respect et la confiance. Et je pense que ça a été notre plus belle réussite à toute l'équipe qui était là. C'est le deuxième jour, quand ils nous font un travail sur les abdominaux. Ils me tapent sur les abdos,
C'est violent.
C'est très violent. Et j'ai envie d'arrêter, mais j'arrête pas. Et là, ils me testent en fait. Je pense que si, j'aurais pu arrêter, attention, hein, je n'avais aucune obligation, mais ils me testent pour voir si justement, et on fait une série d'abdos qui est d'une violence extrême pour le sportif du dimanche que je suis, et à la fin de ça, il me dit « c'est bien, t'as pas pleuré ». Et on est dans un rapport où il se dit « ok, c'est peut-être pas un clampin, on va peut-être l'aider ». Et y a tout un cheminement, il y a rien qui est scénarisé, c'est ça qui est dingue, quoi. J'arrive, ils me font dormir sur le ring dans une moustiquaire rose, entouré de chiens, j'ose pas faire pipi. Enfin, c'est incroyable, c'est vraiment une aventure unique qu'on a vécue aussi bien avec l'équipe qu'avec les gens sur place. Et je suis ravi que ça a aussi aidé plein de personnes. On a eu beaucoup de retours positifs.
On creuse beaucoup la figure paternelle dans ce podcast. Oui. Et c'est vrai que j'ai l'impression que cet entraîneur, il a un peu une figure paternelle, tu vois. Justement, tout à l'heure, il disait, mon père était très dur avec moi et aujourd'hui, moi, je suis très dur avec mes enfants. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce rapport-là aussi entre vous.
Ah, mais totalement, en fait, le
t'as envie de le rendre fier, en plus.
Exactement. Un coach, et justement, moi, j'ai jamais connu ça parce que j'ai toujours été bon en sport, mais je n'ai jamais excellé dans aucun sport. Donc, c'est un peu frustrant. Et c'est pour ça que j'admire, moi, les sportifs. Et forcément, je pense qu'un coach, c'est lui qui nous fait nous dépasser. On a envie, évidemment, de rendre fiers nos parents, mais le coach a une figure paternaliste qui est très importante. Et d'ailleurs, il le dit dans notre échange, il dit la boxe, c'est aussi le cœur. Et on met beaucoup de cœur là-dedans, et c'est vrai que la première chose que je veux pas teaser sur ce qui s'est passé à la fin du combat, mais que je le gagne ou que je le perde, je vais voir tout de suite mon coach et j'ai mes premiers mots envers lui parce que je veux savoir s'il a été fier de moi. Voilà, on dit pas, hein, sur l'issue du combat, on invite les gens à aller le voir, mais c'est vrai que c'est ça qui est assez dingue, c'est que on se retourne tout de suite vers lui en lui disant alors. Voilà.
C'est un truc que tu avais toi-même avec ton propre père ou...
Mon père est sportif et m'a toujours poussé à faire du sport, mais toujours dans le, il m'a jamais forcé à quoi que ce soit. Il nous a toujours poussé à faire du sport parce qu'il aimait le sport. C'est mon grand-père qui m'a aussi beaucoup inculqué les valeurs sportives. Il adorait regarder le Tour de France. Il adorait. Moi, dès que je vois un drapeau bleu, blanc, rouge, je suis très tricolore. J'adore. Je peux voir du cricket sur l'équipe 21. Dès l'instant que c'est les Français, je vais me passionner ou même du curling ou n'importe quoi. Enfin, c'est, voilà, du ping-pong. N'importe. Je trouve que j'admire n'importe quelle personne qui fait du sport. Il n'y a pas de sous-sport. Et c'est ça qui est fort, je trouve, aux Jeux Olympiques, c'est que justement, on met en avant tous les sports, et notamment des sports qu'on ne connaît pas, que ce soit le tir à l'arc, que ce soit. Voilà. Et c'est ça qui est. Moi, que j'admire, c'est des gens qui. Parce qu'être professionnel, c'est justement sacrifier ses week-ends, sacrifier ses soirées. On ne se rend pas compte ce que ces gens-là font. Et c'est eux qu'on avait envie de mettre en avant. Et eux, quand on dit eux, c'est justement tous ces coachs du dimanche qui sacrifient leur vie pour entre guillemets, pas sacrifier, attention, on met mettons des guillemets dans les mots forts que j'emploie, mais qui en tout cas on font des sacrifices pour que les on va dire la jeunesse se trouve des passions. Voilà.
Je voudrais revenir sur une remarque que tu as fait tout à l'heure. J'ai zappé de t'en parler, mais je voudrais vraiment, avant de conclure, de t'en parler, d'en faire parler. Tu disais que tu étais contre l'égalité.
Oui.
Ce qui est fou. Comment ça, t'es contre l'égalité?
Non, ce que je veux dire, c'est que on est dans un pays où on est égaux en droit. L'égalité, c'est du droit. C'est ça qui est important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas se battre pour être légal, parce qu'on est déjà tu es déjà mon égal. Le principe d'égalité, ça doit surtout être au niveau du droit. Par contre, quand je dis que je suis contre l'égalité, c'est évidemment une phrase un peu provocatrice, c'est dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le meilleur des combats. Le vrai combat, c'est de se révéler, en fait. Et qu'il y a des personnes qui... Je ne souhaite pas que les gens se battent pour être mon égal. Je souhaite que les gens se battent pour être de temps en temps mille fois supérieurs dans des domaines ou autres. C'est ça, le vrai combat. Le combat, c'est aujourd'hui, et notamment la place des minorités, c'est pas de se battre pour être comme les autres, c'est de se battre justement. Moi, j'avais adoré la phrase d'Harry Roselmack. Quand il avait été présentateur du JT de TF1, il a dit « Vous trouvez pas que c'est incroyable qu'il y ait un présentateur noir au JT de TF1 ?» Il a dit « Ça sera incroyable le jour où il y aura un présentateur noir au JT de TF1 et qu'on n'en parlera pas. » Voilà. Et pour moi, c'est ça le vrai combat. C'est de pas mettre en avant quelque chose en disant « Oh, vous avez vu, on a mis un présentateur noir à la télé. » Donc ça veut dire que c'est l'égal d'un blanc. Pas du tout. Non, c'est pas l'égal. J'adorais la phrase de Roselmack qui a dit « Ça sera formidable le jour où justement, ça sera normal. » Et c'est là où je dis que la vraie égalité, c'est la normalité. C'est quand on les gens arrêteront d'avoir des regards négatifs sur la différence. La différence, c'est formidable. Il faut la mettre en avant. Il faut évidemment se battre pour l'égalité, j'entends. Mais dans un pays comme la France, un pays le pays des droits de l'homme, il faut surtout se battre pour que justement ce qui n'était pas normal hier le soit demain. Et c'est ça que je prône, entre guillemets, c'est la normalité. Voilà. Tout le monde a le droit de se marier, ça devient normal aujourd'hui, c'est formidable, des gens se sont battus contre, et ben voilà, aujourd'hui on n'en parle plus, c'est normal, voilà, ils ont envie de divorcer, ils font ce qu'ils veulent, il y a d'autres combats qui doivent être menés, c'est formidable de se battre pour une égalité de droit, parce que ça c'est du droit, mais que je pense que nos vrais combats à nous, ça sera justement le jour où on arrêtera d'être un peu centré sur nous-mêmes et un peu plus ouvert sur les autres et sur arrêter de mettre en avant des différences. Voilà. C'est formidable, les différences.
Je comprends. La dernière question que je pose à tous mes invités, c'est quoi pour toi? Est-ce que tu as autour de toi, que ce soit dans tes proches ou dans des gens que tu connais ou même médiatiquement, un modèle de masculinité positive?
Très bonne question. Est-ce que j'ai un modèle très sincèrement, là, spontanément, j'ai pas une personne qui me vient en tête. Moi, je suis très admiratif, moi, des sportifs. C'est-à-dire que je suis un passionné, et notamment des documentaires sportifs. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que on a réalisé cette série amateur. Mais c'est vrai que j'admire, moi, quand je vois le documentaire sur Maradona. Voilà, c'est quelqu'un qui justement s'est battu. Enfin, il est né dans un bidonville et il s'est élevé avec beaucoup de défauts, attention, mais il s'est battu. Donc voilà, je dirais, moi, j'ai beaucoup de figures sportives, mais aussi bien hommes ou femmes confondus, parce que j'admire tous ceux qui en fait me poussent à me dépasser. Et que ce soit mon père, ma mère ou des sportifs de haut niveau que j'admire et que j'ai la chance de temps en temps sur Twitter de côtoyer, parce que ces gens-là m'ont fait vibrer et on se sent vivant quand on vibre. Donc malheureusement, je n'ai pas une personne, parce que c'est un peu la phrase d'introduction, c'est que moi, ce sont la multitude de rencontres qui me fait me dépasser, et non pas juste une figure en particulier. Et c'est pour ça que j'inclus hommes et femmes dans le lot.
Merci beaucoup, Alban.
Merci.
Je mettrai tous les liens pour les gens qui veulent te suivre. Sur...
D'accord.
T'es plutôt Twitter qu'Instagram.
Oui, oui, oui. Ensuite, Instagram fait partie aussi du jeu, mais c'est vrai que Twitter, je trouve que c'est assez intéressant d'échanger. Évidemment, c'est dur de temps en temps, parce qu'on s'en prend plein la tête sur Twitter, mais il y a aussi plein de bonnes choses. Voilà.
Est-ce que tu as prévu de retourner à Koh-Lanta, c'est quoi?
Oh ben on verra si on m'appelle, mais déjà deux fois en quatre ans, c'est pas mal, et puis ensuite il faut quand même avancer, mais on ne dit jamais non à Koh-Lanta.
Merci à toi.
Merci à vous.